d'être là ce matin. Je n'ai pas été au Créum dès tout le début. Je n'ai pas été là en 2002, mais je suis arrivé en 2004, d'abord comme postdoc. Me voici maintenant et je suis très heureux d'être là encore et de me retrouver entouré non seulement sur ce panel mais dans la salle par des personnes qui ont accompagné ce voyage. Alors l'idée de notre premier panel, ce panel d'ouverture, reprend une des idées que Martin vient de mentionner dans son discours. C'est l'idée que les philosophes politiques, les éthiciens ont un travail à faire de faire un pont entre la théorie et la pratique. On a nommé ce panel les mains sales et je suis très fier de vous annoncer que dans ce sens-là, je me sens entouré de mains très très sales. Malgré ce fait, je dois vous annoncer aussi qu'il y a une paire de mains sales qui malheureusement a été retenue par l'ouragan Sandy. Philippe Van Parijs ne peut pas être là ce matin à cause de cette tempête. Nous travaillons encore à l'instant sur une vidéo qui pourrait être transmise pour au moins transmettre ses idées. Si la vidéo arrive d'ici 45 minutes, une heure, on passera à Philippe Van Parijs, après Daniel Weinstock et après Christian Nadeau. Mais on commence avec vous deux. Alors Daniel n'a pas besoin d'une introduction au Créum. Martin l'a dit dans des mots plus élogieux que je pourrais trouver maintenant, mais je le dirais simplement dans une phrase, c'est en grande partie grâce à Daniel qu'on est là ce matin, et merci pour cela. Merci. Il est maintenant, comme Christine l'a mentionné, professeur de droit à McGill. Ses recherches, comme vous le savez tous, mais je le répète quand même pour marquer l'occasion, se concentrent sur des questions de démocratie, de diversité, mais aussi sur des questions justement qui amènent la philosophie dans des terrains pas encore très bien voyagés, comme l'éthique de la ville par exemple. Et il vient de commencer un projet de recherche d'envergure sur la santé aussi. Alors on va commencer par Daniel.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à tous d'être là. J'espère que vous ne m'en voudrez pas si je prends quelques-unes des minutes qui me sont imparties, surtout si, comme je le comprends, là, on a peut-être quelques minutes de plus qui risquent de nous être léguées par l'absence d'un vidéo belge. Pour dire quelques mots, disons, sur cette occasion, mais je ferai le pont de manière sans trop, je l'espère aussi, élégante que possible vers les propos qui nous réunissent aujourd'hui autour donc, du thème des mains sales. C'est vrai que j'étais le premier directeur du Créum. Je me dis qu'après 10 ans, vous avez droit à une anecdote. Vous avez droit à une anecdote parce que avant d'être le directeur du Créum, j'ai été le directeur du comité de lancement du Créum. Donc le vice-recteur à la recherche de l'époque, Alain Caillé, dont je crois que nous devons saluer le nom également. Ça fait longtemps qu'il a quitté l'Université de Montréal, mais il a été la personne qui... peut-être pas a eu l'idée de lancer un centre de recherche en éthique à l'Université de Montréal, mais qu'il a supporté, disons, qu'il a porté dans les plus hautes sphères de l'administration de l'Université de Montréal pendant ses premières années. Il n'y aurait pas eu de Créum sans Alain Caillé, donc je voudrais qu'on le reconnaisse aujourd'hui. Mais donc, il s'était dit que ce serait bon d'avoir une sorte de comité de lancement qui, lancerait les bases du Créum, définirait ses principales orientations, et il m'a demandé de présider ce comité avant de lancer le Créum. Alors, une des questions fondamentales que nous avions à nous poser, c'était le nom de ce centre, qui, avant d'exister, ne s'appelait pas le Créum. Je peux donc vous annoncer aujourd'hui que le nom que j'avais proposé au comité, je le trouvais très beau. Et imaginez un avenir, imaginez une réalité alternative dans laquelle ces 10 dernières années se seraient passées, non pas avec le Créum, mais avec le CREP. Le centre de recherche en éthique, ou la crêpe peut-être, le centre de recherche en éthique, philosophie et politique publique, qui était la proposition que j'avais amenée donc, à mon comité de lancement. Je l'avais trouvé donc très euphonique également, mets l'eau à la bouche, littéralement. Et ce nom m'avait été, a été refusé par mon comité d'organisation, qui trouvait entre autres qu'il mettrait trop d'accent sur la philosophie comme telle et les politiques publiques. Donc, ôter, les ôter la philosophie, ôter les politiques publiques, ben, qu'est-ce que vous avez il vous reste le CRÉ. Et là, vous ajoutez le UM et ça donne le CREUM. Mais le CREUM a été un nom qui a été résisté. Il y a un vice-recteur, un autre vice-recteur de la même époque que je ne nommerai pas, qui m'avait dit « CREUM, c'est tellement laid, hein, c'est tellement laid, ça ne va jamais prendre. Hein, ça ne va jamais prendre. Les gens ne pourront jamais s'habituer à dire CREUM et ça ne marchera pas, il faut trouver autre chose. » J'ai pensé qu'il avait tort et je pense que l'avenir m'a confirmé. Là, nous avons maintenant donc 10 ans là, que le mot CREUM pend à toutes les lèvres des chercheurs en éthique. Et son euphonisme, peut-être à peine soupçonné du début, s'est révélé un peu comme certaines musiques expérimentales qui, on ne se rend pas compte qu'à quel point elles sont belles avant de les avoir écoutées une vingtaine de fois et avant qu'un certain temps se soit passé. Bon, alors voilà votre anecdote, disons, qui a été jusqu'à maintenant. Fait partie un peu de l'histoire cachée, refoulée du CREUM. Et vous savez maintenant que nous aurions pu être ici tous réunis autour du 10e anniversaire de la crêpe. Donc c'est pour moi un moment aussi de très grande émotion. Nous en sommes à 10 ans du CREUM et nous aurions pu ne pas y arriver. Hein. Il y a eu différents moments, Christine l'a évoqué, mais je peux en nommer d'autres, où il semblait que les carottes étaient cuites. Un centre d'éthique dans le contexte de l'université contemporaine, je pense que ce n'est pas un secret pour quiconque. C'est tout un défi. C'est tout un défi de faire valoir l'importance de ce genre de centre dans une université qui... s'organise de manière peut-être un peu différente de celle que les vieux dans la salle ont connue. Je me suis nommé. Je pense que c'est parce que nous y avons cru tous et qu'à différents moments où le désespoir prenait en quelque sorte l'un, il y en a un autre qui revenait à la charge en se disant non, il faut continuer à se batailler. Donc, je ne pense pas que les nouveaux dirigeants du CREUM soient, disons, arrivés à la fin de ces batailles, mais je crois que... l'affiche que la très belle affiche des affiches que nous avons ici, à part le fait qu'elle révèle très bien que Martin Blanchard a véritablement créé une esthétique du CREUM par ses affiches, je pense que, et je ne pense pas que ce soit exhaustif, hein, le nombre d'affiches que nous voyons là montre que le CREUM vaut la peine qu'on se batte pour lui. Et j'espère que vous allez pouvoir continuer à le faire, que vos victoires seront récompensées et que vous n'aurez pas à batailler trop fort. Peut-être une dernière chose en guise de présentation. C'est la première fois que je parle en quelque sorte en public depuis mon départ de l'Université de Montréal, mais également de mon départ du CREUM. On me demande presque quotidiennement, peut-être un peu moins maintenant, là, parce que ça commence à faire un certain temps, pourquoi j'ai décidé de quitter. Et je répète une phrase que j'ai dite dès la première année que j'étais au CREUM. J'avais moi-même participé à des centres de recherche en éthique dans d'autres universités qui avaient toujours eu ou qui avaient eu pendant un temps extrêmement long le même directeur, la même directrice, au point où il y avait une identification entre le centre et l'individu que je trouvais malsaine. Et je m'étais dit que je ne pourrirais pas ou je ne permettrais pas à cette relation entre un individu et un centre de pourrir au point où on ne pouvait pas penser l'un sans l'autre ou l'autre sans l'un. Et c'est à peu près au moment où j'ai senti qu'il y avait peut-être le risque que cela se produise que j'ai décidé qu'il était préférable que je passe la main à des énergies nouvelles. Je pense que avoir tous les projets que vous avez concoctés pour les mois à venir, je pense que ça a été une bonne chose. Je voudrais une dernière chose. Quand je pense mes 9 ans au CREUM, je pense à des événements sur des thèmes aussi différents que les gaz de schiste, les années Obama, religion, éthique et citoyenneté à l'école. Enfin, vous savez tous lire, donc vous pouvez le faire pour vous-même. Mais il y a quelque chose qui n'est pas... qui n'est pas affiché, c'est, je dirais, la progéniture du CREUM, dont je suis extrêmement fier. Le CREUM, année après année, a accueilli des postdocs extrêmement talentueux venant du monde entier. Si je devais retenir une chose comme marque du succès du CREUM, c'est le fait que notre progéniture est devenue grande. Premièrement, je me dis à quel point je suis vieux lorsque les gens qui ont été des postdocs au CREUM m'écrivent pour me demander des lettres de recommandation pour leur permanence à l'université, non pas pour des postes, là, mais pour leur agrégation, ce qui maintenant arrive de plus en plus fréquemment. Je n'ai pas fait le décompte exact du nombre de postdocs passés par le CREUM qui occupent maintenant des postes académiques permanents, mais j'ai fait un peu le décompte rapidement, là, et j'en ai vu au moins 7 dans la salle, ce qui est quand même considérable, et j'en vois 2, 3, 4 autres qu'on pourra sans doute bientôt rajouter, j'en suis convaincu, à cette liste. Donc, le CREUM, et ça a toujours été mon intention, je suis un empereur manqué, et mon intention a toujours été un peu de faire de sorte que les tentacules du CREUM s'étendent de par le monde, et c'est réussi. Donc, nous allons bientôt avoir notre première, un pied fermement planté en Irlande. Nous sommes bien installés au Québec, en Belgique, dans d'autres pays, aux États-Unis, etc. Et c'est quelque chose dont je suis immensément fier. Passons maintenant au thème qui nous réunit. J'ai probablement utilisé à peu près 27 minutes de mon temps. Donc, merci beaucoup. Mais ce n'est pas sans lien avec ce dont je vous parlais, parce que le CREUM, me semble-t-il, accomplit une mission qui est extrêmement importante dans l'université actuelle. Et je voudrais l'illustrer en vous faisant part, il m'arrive parfois, par des journées maussades comme celle-ci, de me dire qu'un jour j'écrirai une nouvelle un peu glauque, disons d'humour noir, qui prendrait la forme suivante. Imaginez que les grands dirigeants de ce monde, les grands banquiers, les grands politiques, les responsables du complexe militaire et industriel, etc., se réunissent un jour et se disent « ça va pas trop mal ». Les sociétés, on parle avant le printemps érable, là on parle avant Occupy, disons une nouvelle qui se situerait à peu près en 2008 ou quelque chose comme ça, ou en 2012. Ça va pas trop mal. Nos sociétés sont pacifiées. Nous avons réussi à mettre en place un système qui convient très bien au 1%, mais pas trop bien au 99%. Mais en mettant avec Star Academy et toutes sortes de choses à la télévision, nous réussissons à pacifier le 99%. Mais il y a un problème quand même. Ça marcherait pas trop bien, en fait. Il faudrait que je le situe dans un passé plus lointain. Mais enfin, vous m'aiderez pour ce qui est du narratif. Il y a des gens qui ont quand même des idées critiques dans cette société, qui commencent à voir un peu la manigance à laquelle nous sommes livrés, et ces gens-là, il faudrait quand même trouver un moyen de les neutraliser. On n'est plus à une époque où on peut les mettre dans des camps de concentration ou je ne sais trop, il faut trouver un moyen plus subtil. Et ils en arriveraient à la conclusion que la chose à faire, c'est de créer le système académique actuel, qui aurait en quelque sorte la fonction suivante, de permettre aux gens d'exprimer leurs idées critiques dans des forums que personne ne lit, qui ont une incidence à peu près nulle sur le monde réel, qui a un système de récompense interne qui fait de sorte que les gens se sentent quand même relativement, disons, heureux. Là, de temps en temps, ils gagnent des prix. Leur essai qui a été lu par 43 personnes dans le monde est sacré meilleur article de l'année par je ne sais trop. Donc, il y a un système de récompense interne. Il y a des bons salaires. Il y a une sorte de... C'est sympathique. On a une vie sympathique. Et plutôt que de les mettre dans des camps de concentration, ce qui risquerait de se faire remarquer et de nous attirer les foudres de quelqu'un, ce serait une manière beaucoup plus, parce qu'on aurait l'impression vraiment qu'ils le font parce que c'est ce qu'ils ont envie de faire. Et je me dis parfois que le système auquel ils en arriveraient ne ressemblerait pas... Enfin, ressemblerait quand même un peu au système universitaire tel que nous l'avons concocté. C'est-à-dire que nous nous sommes organisés par certains aspects, et je dis bien par certains aspects de notre fonctionnement interne, à prendre des cerveaux extrêmement brillants et impressionnants, avec des perspectives critiques très importantes, très incisives sur la réalité, et de leur trouver à peu près le moyen le plus efficace de faire de sorte que cette intelligence et cette perspicacité critique est prise, je suis en train de déprimer complètement là, est prise sur le monde réel. Nous savons tous, nous les vieux là, ou les moins vieux, qu'on ne peut pas faire autrement que parfois de publier dans des revues qui ne sont lues que par, si on a de la chance, 43 de nos collègues de par le monde, si on a moins de chance... zéro de nos collègues de par le monde, parce que le système de promotion, etc., le système de subvention dépend de ce que nous publions dans les endroits qui sont le moins percutants. Hein, quand vous êtes siégés, ceux d'entre vous qui êtes jeunes, peut-être que les jeunes devraient partir, en fait, là, quitter la salle pour que je vous adresse. Les trucs qui comptent le plus dans un dossier de promotion sont celles qui, je pense qu'il y a presque une relation de proportionnalité stricte entre le fait que les choses qui comptent le plus sont les choses qui ont le moins d'impact. Hein. Donc la revue expertisée par les pairs, encore une fois, là où le lectorat 43 est vraiment un objectif extrêmement ambitieux que nous pourrions nous fixer, est, disons, la chose qui compte le plus dans un dossier de promotion. Hein. Si vous écrivez des pamphlets sur des questions de politique publique qui risquent d'être lus par des gens, hein, et que vous mettez ça dans votre CV, conseil aux jeunes là, qui ne sont pas encore à l'agrégation, ne le faites pas, ne le faites pas, hein, parce que ça comptera à peu près pour 0 ou pour 0.1 dans votre dossier comparé à ces articles qui ne seront lus par personne. Bon, là, je suis en train de... Bon, alors ça, c'est la nouvelle un peu glauque. C'est la nouvelle un peu glauque. Nous avons réussi, je crois, collectivement, à concocter un système qui ne nous permet pas, de la manière la plus efficace qui soit, de mettre en valeur et de faire de sorte que contribue à l'évolution de la société les idées critiques que nous développons à l'université. Et ça, je pense que c'est quelque chose, bon, j'ai exagéré un peu pour l'effet rhétorique et dramatique, pour vous réveiller un peu, pour vous provoquer. Je pense que c'est quelque chose, c'est une réalité, c'est une dimension de notre réalité à l'université à laquelle nous devrions vraiment réfléchir collectivement, parce que je crois que c'est un véritable problème. Je crois que c'est un véritable problème. Bon, cela dit, et là je passe maintenant à le côté un peu plus rose, évidemment qu'on ne peut pas se passer entièrement de ce que nous faisons, et même ceux d'entre nous qui pensons que la conclusion à tirer de ce que je viens de dire est que nous devrions davantage nous salir les mains, et je viendrai à ce que peut vouloir dire se salir les mains. Se salir les mains ne peut donner lieu à... Alors comment est-ce que cette métaphore va... traverser jusqu'à la fin de la phrase, j'en suis pas sûr. Nous ne pouvons véritablement nous salir les mains de manière féconde que si avant, dans un moment de propreté antérieure, nous nous sommes... Bon, je ne sais pas comment ça va finir. L'intervention que nous faisons dans la politique publique doit être nourrie et est enrichie par le fait d'être nourrie par, paradoxalement, le genre de recherche que nous faisons qui est parfois destiné à des lecteurs spécialistes que l'on peut compter parfois sur les doigts de deux, trois mains. Il me semble que nos interventions publiques gagnent, hein, à ce qu'il y ait un moment important dans lequel nous affinons nos outils, raffinons nos concepts, développons nos arguments, cherchons à voir dans toute sa nuance la réalité à laquelle nous nous adressons, faisons les distinctions qui s'imposent, etc., etc. Et il se pourrait qu'il n'y ait d'autre moyen que de le faire que par le genre de véhicule que j'ai nommé il y a un instant, donc ces revues scientifiques, etc., livres publiés par des presses universitaires dans des endroits très spécifiques. Il est possible que ce soit un moyen nécessaire à la fin, mais une fin qui, je crois, devrait être prise davantage au sérieux que nous ne le faisons parfois, qui est celle de se mouiller dans le débat public par de multiples moyens. Donc, je vois le CREAM, hein, je vois que le CREAM comme un endroit qui remplit un rôle extrêmement important, hein, parce qu'il essaye, et je voudrais reprendre une idée qui a été mise de l'avant par Martin Blanchard, est-ce qu'il est encore dans la salle, dont je salue également la présence. Il sait tout le bien que je pense de lui, et je ne prendrai pas plus de votre temps en le disant, mais il le sait. Une idée de Martin Blanchard qui est que nous pourrions faire encore mieux pour que des lieux comme le CREAM soient des lieux de jonction entre la recherche universitaire et l'intervention publique. Mais je pense qu'une des raisons pour lesquelles il est important que nous nous battions, hein, pour le maintien d'espaces comme le CREAM, et qu'il nous permet de faire quelque chose d'extrêmement périlleux, d'extrêmement délicat, d'extrêmement fragile, c'est-à-dire de faire de sorte que la recherche qui porte directement sur des enjeux de terrain, l'intervention, le contact avec les communautés, les parties prenantes, pour utiliser un horrible vocable, se fasse de manière qui n'est pas complètement déconnectée, donc, de cette recherche de fond qui, je le crois, quand même, rend nos interventions intervention publique plus féconde. C'est une manière donc de faire de sorte que nous ne soyons pas, nous les chercheurs, dans une sorte de schizophrénie dans laquelle je me retrouve parfois en tant que personne qui est pris au sérieux, donc ce mandat de réfléchir à la chose publique, celle de faire des trucs extrêmement doctes dans le milieu universitaire et ensuite de me retourner dans des commissions, dans des interventions publiques, dans des interactions de différents types avec, disons, le monde réel, hein, mais sans qu'il y ait véritablement de base communicant institutionnelle, hein, conceptuelle, intellectuelle, il y en a toujours, mais sans qu'il y ait de base communicant institutionnel avec le monde universitaire. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je pense que le CREAM, disons c'est une chose qui illustre l'importance du CREAM par rapport au thème qui nous unit ce matin, l'idée des mains sales. Le CREAM est un endroit qui nous permet d'avoir les mains sales tout en les gardant un peu propres. Quelque chose du genre. Bon. Alors, c'était là. Ça fait combien de temps que je parle hein?
Encore 5 minutes.
Ok. Bon. Je voudrais maintenant. Donc, la première conclusion à laquelle je voulais en arriver, c'est que, premièrement, il me semble qu'il est terriblement important que nous réfléchissions à ce dysfonctionnement potentiel auquel nous en sommes arrivés dans nos universités, qui est que beaucoup d'énergie intellectuelle est dépensée à faire des choses et à investir des véhicules de la recherche qui ne sont pas nécessairement ceux qui permettront le mieux de faire avancer les choses. Et je me demande s'il n'y a pas lieu même de penser ces véhicules différemment. Hein, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire de sorte que même la recherche de pointe qui est essentielle et nécessaire soit diffusée dans des véhicules qui soient peut-être plus accessibles aux gens qui n'ont pas nécessairement notre formation hyper spécialisée. Donc première question que je soumets donc à votre réflexion, à notre réflexion collective. Et deuxième constat, l'importance de lieux comme le CREAM pour faire de sorte que nous réussissions à toucher au réel tout en maintenant un contact avec la recherche de pointe. L'autre chose que je voulais faire, mais j'ai probablement passé trop de temps à développer ce point-là, c'est de parler de certains dangers que je vois dans le salissage des mains par les intellectuels universitaires. Et c'est une question qui me trouble depuis que j'ai commencé à investir le domaine public et je ne suis pas convaincu d'en être arrivé à des conclusions fortes, quoique je suis convaincu que certaines des conclusions auxquelles j'en suis arrivé dans certains de mes écrits ne sont pas les bonnes conclusions. La question que je me pose, c'est celui de la partisanerie. Hein? C'est celui de la mesure dans laquelle nous, en nous salissant les mains, devons nous cantonner dans une espèce de rôle de clarificateur des enjeux. Hein? En tant qu'intellectuel, nous devons en quelque sorte nous tenir à un certain écart, disons, des conflits partisans, des partis politiques, des causes particulières, à moins, et c'est une condition à laquelle je croyais, même quand j'ai écrit des choses auxquelles je ne crois plus à 100%, à moins que véritablement il y ait péril dans la demeure dans un sens réel, c'est-à-dire que des décisions politiques, des choses qui sont en train de se passer autour de nous affectent, hypothèquent des fondements que nous jugeons importants, essentiels au fonctionnement de nos sociétés, quelles que soient nos affiliations partisanes par ailleurs. Il y a 2-3 ans, certains d'entre vous, 3-4 ans, je ne sais plus, certains d'entre vous vont vous en souvenir peut-être, j'ai lancé une initiative qui cherchait à alerter le public, hein, à ce qui se passait au niveau de nos institutions démocratiques au moment de la prorogation du Parlement par le gouvernement Harper. J'avais essayé donc de faire du bruit, hein, plutôt que d'écrire un article scientifique, de faire du bruit en écrivant une lettre qui a finalement été signée par à peu près 300 profs de sciences politiques, de droit et de philo, disant que ce n'était pas qu'une banale utilisation d'un pouvoir discrétionnaire du Premier ministre, ce n'est pas quelque chose de technique comme le fait de demander une pause dans les travaux de la Chambre pour que les gens puissent aller à la toilette. Là, c'était beaucoup plus fondamental, beaucoup plus grave et potentiellement beaucoup plus dangereux pour nos institutions. Donc, lorsqu'il y a péril dans la demeure, il faut que nous agissions, mais il n'y a pas toujours péril dans la demeure. Il y a des questions sur lesquelles des gens de bonne foi peuvent être en désaccord. Et par rapport à ces questions-là, peut-être que le meilleur rôle que nous pouvons nous faire, c'est de ne pas nous salir les mains trop, hein, de ne pas prendre position pour l'une ou l'autre des options qui se disputent sur la place publique, mais plutôt de clarifier les enjeux. De clarifier les enjeux. Ceux d'entre vous qui j'ai accepté l'invitation des presses de l'Université de Montréal il y a quelques années pour écrire un petit livre qui s'appelle Profession éthicien, qui se termine donc sur une réflexion sur la nécessaire neutralité du chercheur, et avec quelques années de recul, je me dis que je n'ai pas réussi parfaitement à cerner la position qui est la mienne, parce qu'il me semble que cette neutralité est difficile, sinon impossible à atteindre, et qu'elle n'est peut-être de toute façon pas vraiment désirable. Et cela, je m'en suis rendu compte, et je terminerai peut-être là-dessus, Peter, dans une intervention donc publique récente que j'ai eue, qui tournait autour de la question du suicide assisté et de l'euthanasie. Bon, comme vous le savez, il y a des causes juridiques, des affaires juridiques qui sont en train de monter vers la Cour suprême, qui pourraient nous amener dans un avenir assez rapproché à ce que la Cour suprême reconsidère la décision qui date maintenant de 20 ans, qui fait que encore aujourd'hui, le suicide assisté, le suicide médicalement assisté et l'euthanasie sont illégales au Canada. Il y a 2 ans, j'ai été invité par la Société royale du Canada à réfléchir à la question de savoir comment l'État canadien devrait réagir, par exemple, si la Cour suprême devait invalider donc les dispositions du code criminel actuel qui rendent illégal le suicide médicalement assisté et l'euthanasie. Évidemment, 2 options qui sont ouvertes lorsque la Cour suprême vous dit que votre loi enfreint les lois. Vous pouvez soit faire d'autres lois qui les enfreignent moins tout en cherchant la même finalité, ou vous pouvez accepter le message que la Cour suprême est peut-être en train de vous envoyer pour vous dire qu'il n'y a pas là quelque chose qui devrait être illégal pour commencer. Le gouvernement Harper, dans quelle direction ira-t-il, je ne le sais pas. Toujours est-il que donc j'ai passé 2 ans à réfléchir à cette question avec des collègues donc dans un comité de travail, et je suis devenu passionnément convaincu du fait que il y avait un impératif à ce que ces pratiques soient décriminalisées et régulées, comme elles le sont aujourd'hui dans d'autres pays qui nous ressemblent par leur culture politique, les Pays-Bas, la Hollande, certains États américains. J'en suis devenu convaincu alors que je ne l'étais pas au début. Les critiques de notre rapport maintiennent que le comité a été stacked, hein, pour utiliser un mot anglais, de gens qui étaient au départ convaincus de la justesse, de la décriminalisation du suicide assisté et de l'euthanasie. J'ai recherché dans mes écrits, je n'avais jamais écrit sur ces questions-là, mais je m'étais souvenu à un moment donné que j'avais fait une analogie dans le contexte d'un papier qui portait sur autre chose avec le suicide assisté et l'euthanasie, et en relisant ce papier, je m'étais rendu compte que la seule implication naturelle que l'on pouvait tirer du petit paragraphe que j'avais consacré à la question était que je serais plutôt porté à être contre la décriminalisation plutôt que pour. C'est un texte qui date de bien longtemps. Je me suis rendu donc attentif aux arguments venant des deux côtés, des arguments aussi bien factuels que juridiques, et j'en suis arrivé à la conclusion, au terme de ces réflexions, que le poids de l'argument, le poids de la preuve pesait vraiment du côté de la décriminalisation. Et ce rapport a été déposé, et pendant plusieurs mois, je me suis retrouvé dans la place publique, devant les médias, à être l'ardent défenseur de ce rapport, et donc l'ardent défenseur d'une position fortement partisane qui découlait de manière assez directe de mes recherches. Et donc, j'en suis arrivé à la conclusion que la recherche et la neutralité ne vont pas nécessairement de pair. Hein. Que parfois, clarifier les enjeux, cela veut dire montrer, une fois la lumière posée là, de manière qu'elle inonde le champ auquel consacrons, que la lumière rend la neutralité impossible. Je suis toujours convaincu qu'il y a quelque chose, et je vais vraiment m'arrêter là parce que je sens dans le regard de Peter une intensité qui me fait penser que peut-être que j'abuse un peu de mon temps. Oui, je suis convaincu que il y a quelque chose dans ce que je recherchais en disant que le chercheur universitaire qui se salit les mains doit quand même le faire en essayant d'adopter une certaine neutralité. Je pense qu'il y a quand même qu'il y a une posture que je recherchais, que je cherchais à articuler et que j'ai cherché à articuler de manière peut-être erronée en allant chercher l'idée de neutralité, qui vaut quand même la peine d'être explorée. Hein, au-dessus de la mêlée, je ne sais pas exactement comment caractériser cette posture, mais je pense que ça vaut la peine de le faire, parce que je continue à croire que l'intellectuel universitaire, quand il se salue les mains, doit être autre chose qu'un simple partisan. Mais la partisanerie lui est peut-être imposée par la force de ses arguments. Comment se distingue-t-il dans sa partisanerie du simple partisan, et je mets le mot simple entre guillemets? Je n'ai pas de réponse à cette question, mais c'en est une qui m'est imposée, qui nous est imposée, à laquelle je nous invite de réfléchir, en même temps que nous réfléchissons donc à ces autres questions que je nous ai posées ce matin. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Daniel, de nous ouvrir ces pistes de réflexion. Alors, il n'y a pas seulement des mains sales, mais il y a des bonnes et des mauvaises manières de se salir les mains.
C'est peut-être différents types de langues.
Il y a des niveaux de saleté qui sont appropriés et d'autres qui ne le sont pas. Je suis sûr que vous avez des questions sur ces réflexions, mais on va passer à Christian d'abord et après traiter les questions dans une discussion par la suite.